Ah, vous êtes là, merveilleux auditeur. Ah, mais comment allez-vous depuis le temps? Ah oui, excusez-moi, vous me surprenez là, mais j'étais en train de préparer un petit encas, voyez-vous. Ah oui, j'ai une petite faim que, voilà, ça m'arrive. Donc, ne m'en veuillez pas, hein, si je ne fais pas totalement attention à votre présence, hein, je suis un petit peu occupé. Mais bref, puisque vous êtes là, oui, il me semble que, oui, je vous avais promis un merveilleux supplément que je vous fournirai donc dans le courant du printemps de cette année, histoire de pallier à votre longue attente, hein, oui, en attendant que je revienne avec la suite des histoires, hein, oui, parce que là, bon, je suis un petit peu plus ou moins en vacances. Mais bref, donc, voilà, oui, ce merveilleux supplément, donc, qui est en fait finalement une histoire que j'ai voulu enregistrer dans le courant de l'été dernier, voyez-vous. Une histoire donc qui s'est avérée, oui, ça arrive, même au plus fort, quelque peu ratée, oui, elle n'était pas toujours très intéressante. Cependant, elle comportait quelques idées absolument fascinantes, des idées qui m'ont inspiré les événements de la saison 6, mais l'histoire étant en elle-même de qualité trop insuffisante pour que je vous la livre telle quelle, et voilà, j'ai préféré la laisser de côté et vous la fournir à la fin, juste pour que, voilà, comme simple curiosité, pour que vous puissiez savoir d'où viennent tous les événements en question. Histoire qui d'ailleurs n'est pas vraiment mixée, hein, elle comporte quelques ratures que j'ai laissées pour l'authenticité de la chose, et j'ai juste ajouté une petite musique de fond quand même, pour étoffer un petit peu, hein, parce que le simple silence et le ventilateur de mon ordinateur en fond, c'est un petit peu pas terrible. Cela dit, j'avais essayé de faire une histoire à la Kill Bill, vous voyez, avec des petits morceaux de musique comme ça, hein, qui entrecoupent les différentes scènes de l'histoire, et aussi j'avais accompagné une partie de l'histoire, en tout cas, avec mon merveilleux luth. Enfin bon, vous allez pouvoir voir tout ça, hein. Bon, ben moi, je remarque quelque chose, je sais pas si vous avez fait attention, mais pour la première fois, je viens de commencer une histoire sans rien dire ou faire de choquant, c'est plutôt inhabituel. En soi, voilà, on dirait que c'est choquant parce que c'est inhabituel. Bon allez, j'ai assez parlé, je vous laisse découvrir cette merveilleuse histoire et moi, je vais mettre mes sushis au four. Dans notre royaume habituel, un certain jour, un jour assez lointain finalement, où il se passa moult choses captivantes qui influença énormément le cours des événements par après, ce jour-là, voyez-vous, il se passa aussi d'autres petites choses, peut-être moins conséquentes à vue d'œil, mais néanmoins ayant aussi une grande influence sur le reste, la suite de la ligne temporelle, et aussi je voulais vous inviter à explorer cette partie de l'action. D'ailleurs, je vais profiter de tout ça pour remonter un petit peu à la surface un personnage que je trouve un peu injustement oublié, hein, un personnage de la série autour duquel tournera donc ce petit conte, voilà, cette petite histoire un peu à part. Hein. Un personnage qui, ne sera ni un être humain, ni un monstre, ni quoi que ce soit de ce genre, non. Pour une fois, ça tournera autour d'un personnage de type animalier, hein, donc un personnage qui était très présent au début de la série et qui maintenant donc a disparu, hein. D'ailleurs, c'est ça tous. D'ailleurs, je suis à peu près convaincu que vous allez deviner duquel il s'agit, hein. Je vais vous le décrire, hein. Je suis sûr que ça va tilter sous votre casque, hein. Ce personnage est fascinant et de type donc animalier était du type mammifère, hein. Oui, mammifère, plutôt mâle de son état. Quadrupède. Hein, avec sur le sommet de sa tête deux longues et majestueuses oreilles. Ah, déjà là, je sens que vous trépignez, que ça commence à vous revenir. Et de type aussi plutôt végétarien et assez passif en soi. Enfin, voilà, pas méchant du tout. Hein, vous vous en souvenez, hein? Mais, quoi? Non, ce n'est pas l'âne. Ah non, ah ben non. Comment est-ce que vous avez... Ah, c'est à cause des oreilles. Ah, pff, oh là 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 là. Pff. Non, mais c'est un peu facile, ça, les gars. Un peu facile, ça, les gars. non, en fait, il s'agit du lapin. Mais oui, du lapin. Dans le premier épisode. Vous voyez pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va reprendre là où ça a commencé, hein, finalement. Nous étions donc en bordure du champ de carottes du fermier Samuel. Le champ qui, cette nuit-là, avait été dévasté par un cochon gourmand. Il ne restait donc plus une seule carotte dans ce champ. Et le petit lapin qui vivait là, donc au bord de ce champ, dans son petit terrier, fut fort dépourvu quand la dèche fut venue, parce que lui qui se levait pour prendre son petit déj à l'œil, il constata le désastre et je vous dis pas son désarroi profond. aussi un peu triste et dépité, presque désespéré, le pauvre animal, notre pauvre lapinou, entreprit quand même quelques recherches désespérées afin de trouver quand même éventuellement une survivante parmi toutes ces carottes massacrées. Et après un certain temps, il y arriva, il restait juste une seule et unique dernière carotte qui avait échappé à la vigilance de notre ami porcin, sans doute parce qu'elle était peut-être pas encore très bien sortie du sol, peut-être pas très mûre, ou peut-être voilà qu'elle avait juste été enfoncée un jour que Samuel marcha dessus, allez savoir, le fait est qu'elle ne dépassait pas fort du sol. Mais le lapin, de son regard vif et de son petit museau affiné, l'a sentie de loin et a couru vers elle, la déterra des petits coups de pattes frénétiques. Ensuite, il la goba, il l'arracha du sol, enfin, il l'empoigna de ses dents acérées et l'arracha du sol, et puis il fila avec un peu plus loin. Et à Samuel, le fermier, de constater la scène avec tristesse et désolation depuis derrière la fenêtre de la maison de sa voisine Sandrine, à travers laquelle il avait vu donc, hein, vous vous en souvenez sûrement, le lapin piquer sa dernière carotte. Et pour en revenir donc à notre ami Lapinou, celui-ci était donc dans un fourré un peu plus loin en train de dévorer goulûment la carotte qu'il venait de chiper, remettant plus tard l'inquiétude due au fait qu'il n'y avait donc plus d'autres carottes dans le champ, qu'il faudrait sans doute déménager prochainement, préférant profiter pleinement de l'instant et de ce merveilleux repas. Pourtant, à mesure qu'il avalait le légume, une légère douleur croissait dans son estomac, en son ventre, en son intérieur. Il sentait comme une légère brûlure qui s'accrut de seconde en seconde, jusqu'à devenir mais complètement insoutenable. Le pauvre lapin, complètement paniqué, commença à se tordre sur lui-même en poussant des petits cris aigus et désespérés. Et soudain, sa cage thoracique explosa et il en sortit un corps étranger, vivant et absolument féroce. Voyez-vous, il arrive quelquefois, fût-ce par malveillance, par négligence ou alors par simple accident, que des espèces, des petites créatures étrangères à nos vertes landes européennes se retrouvent importées malgré elles sur nos terres et provoquent des dégâts parfois irréparables. Et là, en l'occurrence, cette petite bestiole s'apprêtait à commettre des choses, des dommages qu'elle n'imaginait même pas et que nous n'imaginions même pas encore à l'époque, voyez-vous. Oui, cette bestiole était en fait une larve. Une larve d'une espèce de guêpe solitaire tropicale complètement inconnue chez nous et qui avait été pondue à l'intérieur de ce pauvre lapinou. Et oui, elle y avait cru, non, elle y avait grandi, le dévorant de l'intérieur, épargnant les zones nerveuses de manière à ce que ça reste indolore pour qu'il ne se doute de rien, jusqu'à l'ultime instant où, ayant atteint sa maturité de larve, elle avait dévoré sa cage thoracique afin d'en sortir, sous l'agonie la plus totale du pauvre animal, et oui. Le fait que le lapin soit mort à l'endroit où il se trouvait, à l'endroit précis où il se trouvait, permit à la bestiole de survivre. Si ça avait été en son terrier, en un endroit ombragé ou autre, elle aurait sûrement péri ou été peut-être dévorée par des oiseaux, allez savoir. Le fait est que l'endroit où elle se trouvait était juste parfait. Il y avait un rocher qui était d'une part extrêmement bien exposé au soleil, mais cependant à l'abri du regard des oiseaux qui pouvaient voler ça et là et qui donc ne purent repérer la larve et la dévorer. Et ce qui lui permit donc de prendre le soleil et de tisser son cocon. Et deux jours après, oui deux jours, elle évolue très vite, en sortit une guêpe adulte et prête à pondre, bien que n'ayant pas été fécondée. Oui, c'est une espèce hermaphrodite, très étrange, oui. Mais en plus de ça, voyez-vous, le fait qu'elle ait mélangé finalement son ADN à celui du lapinou qu'elle avait dévoré, provoqua en elle une sorte de mutation étrange. Oui, cela rendit son venin spécifique, hautement mutagène. En fait, pour résumer, quiconque serait piqué par son venin se transformerait en une créature étrange, auquel serait mêlé donc son ADN ainsi que celui de la guêpe elle-même. Oui. Ah oui, c'est une curiosité de la nature, hein, comme quoi bien avant Tchernobyl, il y avait déjà ce genre d'accident. La guêpe s'envola, parcourut les environs jusqu'à arriver à la ville capitale qui se trouvait pas très loin de cet endroit, hein, oui. Et là, ayant de l'oreille, elle entendit d'autres bourdonnements venir d'un certain toit. Et curieuse, elle s'en approcha. Mais alors, juste au moment précis où elle arrivait à ce toit, elle se fit agresser par une main humaine chargée de terre glaise qui se plaqua sur la paroi, le mur, voyez-vous, qui se trouvait juste là où elle se posait, quoi. Donc, de peu, elle échappa à cette gifle glaiseuse. Et furieuse, elle s'attaqua à l'homme qui l'avait ainsi affronté, un dénommé Jean-Jacques. La suite, chers auditeurs, vous la connaissez, mais je pense qu'il était important d'introduire plus d'éléments sur le mystère de cette dernière carotte et les origines de Bourdonman alias Jean-Jacques, ce qui est fait à présent. Et donc, vous le savez maintenant, Jean-Jacques n'était pas seulement Bourdonnan, il était donc un homme, 50% homme et finalement 40% Bourdon et 10% Lapinou, puisqu'il y avait un petit peu de Lapinou dans l'ADN de la guêpe. Voilà, donc, je vous dis pas le mélange de merde qu'était ce type. Mais peut-être que cela aura des conséquences dans l'avenir, hein, allez savoir, ce n'est peut-être pas terminé. Quoi qu'il en soit, la guêpe ne s'est pas remise, enfin, elle est morte avec la piqûre qu'elle a donnée, parce que oui, le savez-vous, même les guêpes meurent des piqûres qu'elles donnent. Elles peuvent piquer certes plusieurs fois, mais malgré ça, la blessure qu'il aurait infligé alors qu'elle ôte le dard, même si elle conserve le dard en question, elle reste mortelle et elle meurt après quelques minutes d'agonie, il faut le savoir. Et donc si certes on ne peut plus rien espérer comme suite du côté de l'insecte, allez savoir peut-être que dans les incidents qu'elle aura provoqués par cette piqûre, peut-être en découlera-t-il autre chose. L'avenir nous le dira, chers auditeurs. Allez, à bientôt.